Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Et si finalement c'était une mauvaise idée, si le changement d'heure, mis en place à la fin des années 70, en plein choc pétrolier, ne nous faisait pas économiser d'énergie tout en perturbant notre horloge interne? La Commission européenne a proposé qu'on mette fin au changement d'heure tout en laissant chaque État décider comment. Et dans ce débat, la Turquie, une fois n'est pas coutume, pourrait bien être un modèle pour le vieux continent, puisque le pays a choisi depuis 2 ans de garder une seule et même heure. C'est le reportage à Istanbul d'Anne Andlauer.
Ce dimanche 28 octobre, la plupart des Européens ont fait une petite grasse matinée sans même s'en rendre compte. Ils ont dormi une heure de plus. Comme chaque année à la même période, c'était le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Mais les Turcs n'ont pas eu cette chance. Depuis l'automne 2016, la Turquie ne change plus d'heure, ni l'hiver, ni l'été. Comme de nombreux pays, la Turquie avait adopté ce système à la suite des chocs pétroliers des années 1970. Il s'agissait alors d'économiser l'énergie, notamment en réduisant l'éclairage public en soirée, la consommation électrique étant surtout issue du pétrole. Mais certains experts estiment désormais qu'avec les dispositifs permettant de faire des économies d'énergie, les ampoules basse consommation par exemple, le changement d'heure n'est plus justifié. C'est ce que défend le météorologue Ahmet Doğan Şahin, professeur à l'Université technique d'Istanbul et l'un des meilleurs experts turcs des études sur le changement d'heure.
En Turquie, le changement d'heure a été adopté en 1982. À l'époque, l'état des technologies et des télécommunications, ainsi que le souhait d'être davantage coordonné avec l'Europe, le justifiait. C'était peut-être logique dans la seconde moitié du XXe siècle, mais au XXIe siècle, à mon sens, le changement d'heure n'a plus aucune justification scientifique. La Turquie en est revenue, l'Europe s'apprête à faire de même et je prédis que les États-Unis suivront bientôt cette voie.
En Turquie, avec 2 années de recul, les autorités sont officiellement convaincues d'avoir fait le bon choix. Selon le ministre de l'Énergie, depuis le changement de système, chaque Turc aurait gagné 64 heures de soleil, rien qu'en ne touchant plus aux aiguilles des montres. Quant à l'État, il aurait économisé pas moins de 2 milliards de dollars en n'investissant pas dans de nouvelles centrales électriques. Sollicité par RFI, le ministère s'est refusé à tout commentaire. Mais le système a ses détracteurs. La Chambre des ingénieurs électriques en fait partie. Son président à Istanbul, Erol Jelepsoy, avance qu'entre novembre 2016 et mars 2017, période pendant laquelle la Turquie aurait dû être à l'heure d'hiver, l'abandon de ce système a provoqué une hausse de plus de 6% de la consommation d'électricité.
Tous nos calculs effectués en utilisant des données officielles et publiques montrent que l'arrêt du changement d'heure est responsable d'une hausse conséquente de cette consommation. C'est une chose. L'autre aspect, c'est que des millions d'enfants et de travailleurs se retrouvent désormais sur les routes dans l'obscurité le matin pendant les mois d'hiver. Cela a des conséquences psychologiques dont se sont plaints de nombreux parents.
Ahmet Doğan Şahin de l'Université technique d'Istanbul soutient que les opposants se trompent dans leurs calculs.
Ceux qui prétendent que la Turquie est perdante dans cette affaire sont dans l'erreur, pour ne pas dire qu'ils mentent. Évidemment que la consommation d'électricité d'un pays augmente d'une année sur l'autre. C'est inévitable et lié à la croissance de la population, aux investissements qui sont faits. Cela dépend aussi des conditions météo. On consommera toujours plus d'électricité lors d'un hiver très froid que lors d'un hiver doux. Si vous ne rectifiez pas vos calculs en fonction de ces paramètres et de beaucoup d'autres, votre comparaison ne peut pas être valable.
Selon ce spécialiste, non seulement la Turquie a économisé l'électricité, mais le système d'heure fixe a aussi fait du bien à la santé des Turcs.
Il est vrai de dire que les gens consomment un peu plus d'électricité le matin en hiver quand vous supprimez le changement d'heure. Mais cette augmentation est largement compensée par les économies d'électricité réalisées dans la soirée. D'autant plus que nous nous sommes rendus compte, à notre grande surprise, que beaucoup de Turcs s'étaient mis à dormir plus tôt après la suppression du changement d'heure, ce qui est bon pour l'organisme.
L'an dernier, Ahmet Doğan Şahin et son équipe ont été chargés par le ministère de l'Énergie de préparer un rapport sur les effets de l'abolition du changement d'heure. Selon l'agence de presse officielle turque, qui a pu consulter le rapport, le pays aurait économisé entre 538 et 801 millions de livres, soit entre 84 et 120 millions d'euros au cours actuel. Problème, le ministère refuse de publier ce rapport. Un choix qui éveille les soupçons d'Erol Jelepsoy de la Chambre des ingénieurs électriques.
Nous demandons qu'à vérifier, pourquoi ne le montre-t-il pas? Si le rapport est publié et que ses conclusions sont exactes, nous serons les premiers à reconnaître que la suppression du changement d'heure était une bonne chose.
L'Union européenne, qui a l'intention d'abolir à son tour ce système, semble de cet avis. Ce n'est pas pour déplaire au gouvernement turc. Le ministre de l'Énergie estimait en septembre que son pays faisait figure d'exemple à suivre pour l'Europe. Pour le régime du président Recep Tayyip Erdogan, davantage habitué aux critiques des Européens, c'est suffisamment rare pour être souligné.
Et à quelques mois du Brexit, l'Irlande se prépare quant à elle un beau casse-tête puisque la République d'Irlande prévoit une consultation sur la fin du changement d'heure, ce qui la mettrait en décalage avec l'Irlande du Nord qui suivra, elle, les fluctuations horaires du Royaume-Uni.
J'ai faim.
Le goût quand même y est quand même. Je
trouve que ça ressemble, ouais.
C'est désormais scientifique. Le bio, c'est bon pour la santé. Une étude publiée par la revue JAMA Internal Medicine établit même que les produits biologiques réduiraient de 25% le risque de cancer. Au Salon international de l'alimentation à Paris, le bien manger était à toutes les sauces et l'industrie agroalimentaire essaie désormais de capter une nouvelle clientèle, les flexitariens, végétariens, mais pas forcément tous les jours. Pour eux, ils ont mis en place de nouveaux produits en forme de trompe-l'œil. Reportage signé Pauline Glaise.
Là, si vous goûtez un tout petit peu de tablette pure, vous allez vraiment sentir le goût de la betterave.
Ah oui, c'est assez étrange en fait. Ça a le goût de la betterave, mais avec une texture de chocolat.
Exactement.
Pas si étrange en fait, les tablettes de la société Coca sont composées de 65% de légumes et 35% de beurre de cacao. Mais ne vous imaginez pas des gens en train de grignoter votre concentré de carottes devant la télé. Kevin Singer, cofondateur de la start-up, nous livre le mode d'emploi.
C'est vraiment très fort en goût, donc l'idée c'est vraiment de l'utiliser pour faciliter l'incorporation des légumes dans les recettes. Soit vous prenez quelques carreaux et vous le râpez directement sur la préparation, donc là on est plus sur de l'assaisonnement, soit faire fondre. On obtient une texture lisse qu'on va pouvoir mettre dans des préparations. Des muffins à la betterave, des cakes à la carotte. Il y a des recettes dans lesquelles il est très difficile, voire impossible, d'utiliser du légume brut. On peut faire des rosés sables qu'avec du chocolat. Et maintenant, aujourd'hui, grâce aux produits qu'on a développés, on est capable de faire des roses des sables à la tomate, par exemple, pour l'apéritif.
Il n'y a pas que la tablette de légumes qui soit cocasse. Au Cial, le légume aime se déguiser et c'est en pari gagnant.
Morgan Rice de la société Pedon.
Si la tablette de légumes a gagné le prix de l'innovation dans la catégorie espoir, dans la catégorie épicerie salée, Pedon s'est imposé pour un autre aliment hybride. Paolo Pedon, le directeur export de l'une des nombreuses entreprises italiennes du salon, nous le décrit.
Cette année, on présente un riz, mais qui n'est pas du riz. En fait, ce sont des légumes secs. On en a trois types. Le riz de lentilles corail, de petits pois et de pois chiches. Ces produits ont les mêmes propriétés nutritionnelles que les légumes secs. Donc, ils sont riches en fibres et en protéines. Et sont sans gluten. Et ils ont un indice glycémique faible.
Alors une question nous taraude, quel est l'intérêt de ce fori?
Les légumes secs cuisent très lentement. Les pois chiches, il faut même les faire tremper toute la nuit avant de les faire cuire, pendant 1h30 environ. Donc, en faisant des produits plus rapides et plus faciles à préparer, on stimule la consommation des légumes secs et on améliore l'alimentation des gens.
Le pois chiche est décidément transformiste. On le retrouve dans la zone des aliments alternatifs. Sur la plaque électrique, mijote ce qui pourrait être du sauté de veau à la tomate.
Et la texture, c'est, on va dire que c'est entre de la viande et des pâtes.
Raté, ce n'est ni de la viande ni des pâtes, mais un mélange de blé et de pois chiches. Andreas Redel, responsable du développement du produit, assure que l'objectif n'est pas d'imiter parfaitement la viande, mais le catalogue de recettes d'émincés, d'aiguillettes et d'escalopes laisse peu de doutes et P&Co mise sur la ressemblance.
Les habitudes culinaires sont toujours faites, je cuisine autour de la viande. Et ça, c'est surtout présent dans le nord de l'Europe. Pour donner une alternative à ça, donc on le fait aussi facile que la viande à cuisiner.
Les propriétés nutritionnelles, est-ce qu'elles sont égales à la viande?
Pas tout à fait. On est aussi riche en protéines que la viande. Par contre, on n'a pas des matières grasses saturées.
Malgré la prolifération des produits véganes, les aliments traditionnels ont encore de beaux jours devant eux au Sial. Le plus grand exposant, c'est un industriel spécialisé dans la viande. Mais attention au piège, à l'entrée du hall consacré aux viandes, on est accueilli par des plateaux de charcuterie végane. Le trompe-l'œil est presque parfait. Pour séduire une cible bien particulière, nous explique Jean-François Orduro de la société Link, le flexitarien.
Le flexitarien, eh bien, c'est quelqu'un qui va peut-être 2, 3, voire 4 fois maximum par semaine rechercher une alternative à ce qu'il a l'habitude d'avoir, que ce soit aussi bien en produits carnés, produits de la mer. Et dans ce cas-là, on répond à ses critères. L'aspect visuel, il est là pour le mettre dans sa zone de confort. Il ouvre le paquet avec l'odeur, le goût.
Pour satisfaire le flexitarien, cette fausse charcuterie et ses faux fromages répondent à un autre critère, celui du sang.
Vous ne pouvez pas avoir des OGM quand vous êtes bio. Depuis 1998, notre principal attrait était de faire des produits sans soja. C'est sans produits lactés, pas d'additifs et sans huile de palme.
L'argument est très partagé sur le salon, y compris par Bronislava Galou de Diet Food.
100% naturel, sans sucre, sans gluten, bio.
Mais le sang n'est pas le seul argument de Diet Food dont le marketing fait le grand écart. Poudre de guarana, de baobab ou de spiruline, parmi ces produits sans, la société polonaise a des produits super plein les étagères.
Un super aliment, un super fruit, c'est des fruits par exemple qui sont forts en action antioxydants ou qui sont forts en fer. Ils ont des pouvoirs en fait que vous n'avez pas besoin de prendre des suppléments alimentaires en cachet.
Est-ce que les super aliments, ça a un super bon goût?
Ça dépend. Super fruits, on peut dire qu'il y a super goût. Super aliments comme chlorella et par exemple spirulina, c'est vraiment un goût particulier.
Bronislava Galou nous promet qu'on s'habitue au goût, reste à sauter le pas. Pour bénéficier des super pouvoirs de ces aliments, il faut parfois savoir déguster sans crainte.
Et aux Pays-Bas, on compte désormais 5% de végétariens purs et durs, auxquels il faut ajouter 100 000 véganes. Une clientèle courtisée par des marques improbables comme le boucher végétarien, des produits à base de végétaux mais qui ressemblent à de la viande et que l'on trouve dans tous les supermarchés du pays. À Amsterdam, Antoine Moutot.
Si on n'est pas familier des supermarchés du pays, on pourrait s'y méprendre. Petit pâté, filet à l'américaine, knacki, boulettes, saucisses de Bologne, à côté du rayon charcuterie. Des noms et emballages imitant tous à la perfection ceux des produits habituels à base de viande, sauf que voilà, en fait, aucun de ces produits n'en contient, ne serait-ce qu'une once. Reconnaissables à leur petit logo représentant une bouchère, un fendoir dans une main, des carottes dans l'autre, les produits de Vegetaris Slager envahissent depuis quelques années les supermarchés néerlandais. De Vegetaris Slager, en français le boucher végétarien, a été fondé en 2010 par Jaap Kortever, 9e génération d'une famille néerlandaise d'éleveurs de bétail. En 1998, traumatisé par la crise de la vache folle et le passage de la peste porcine, il décide de ne plus consommer de viande. En 2010, il ouvre sa première boucherie végétarienne dans le centre de La Haye. On y trouve alors la décoration d'une véritable boucherie, mais aussi des cannellonis et du bœuf bourguignon végétarien. Rapidement, la mayonnaise prend et de très nombreux supermarchés des Pays-Bas décident de commercialiser ces produits. Aujourd'hui, ils sont proposés dans environ 4000 points de vente aux Pays-Bas, mais également dans quelques autres pays d'Europe comme le Royaume-Uni, la Finlande, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Récemment, de Vegetaris Slager a même ouvert un restaurant à La Haye. Bienvenue chez le boucher du futur, peut-on lire sur une pancarte à l'entrée de l'établissement. Selon Jaap Kortever, son entreprise connaît une croissance annuelle de 50%. D'autres tentent désormais de suivre cet exemple très lucratif. Depuis peu, la chaîne de fast-food Febo et ses fameux distributeurs automatiques de pain à la saucisse dans les gares néerlandaises proposent un sandwich végétarien. Le géant américain McDonald's, quant à lui, après avoir d'abord testé un Mac vegan en Finlande et en Suède, a récemment lancé son Mac Veggie aux Pays-Bas et en France.
À 7 mois des élections européennes où l'on jugera de la portée de la vague populiste et nationaliste à l'échelle du continent, voilà un petit livre utile, une brève histoire culturelle de l'Europe que signe Emmanuel Loyer chez Flammarion. On y apprend que l'idée d'Europe s'est d'abord construite au 19e siècle sur l'idée de nation. C'est ce que l'auteur a expliqué à Catherine Roland.
Au 19e siècle, on est plutôt préoccupé pour une partie de l'Europe de construire la nation. Une autre partie est dans une organisation toujours impériale. Donc la question de l'Europe ne se pose pas du tout dans ces termes-là. Bien sûr, Victor Hugo parle des États-Unis d'Europe, mais c'était quand même plutôt une France élargie, on va dire, hein, dans son esprit.
Quand les nations commencent à se construire, notamment au 18e siècle, on se copie les uns les autres.
À la fin du XVIIIe siècle, en effet, dans cette Europe post-révolutionnaire, se crée une logique donc qu'on dit parfois nationalitaire au sens de fabrication de la nation. Et c'est une histoire qui repose beaucoup sur la culture, parce qu'on va utiliser de l'archéologie, de l'histoire, de la littérature, de la musique, de l'opéra, du théâtre. C'est un mouvement qu'on peut observer un peu partout. En Europe. Et en effet, cet atelier de fabrication nationale, c'est un atelier lui-même international. On regarde ce qu'on fait aussi chez le voisin.
Autre construction de la nation, c'est à travers le roman.
Le roman historique à la Walter Scott, et ensuite le roman, je dirais, tout court, le roman de formation, le roman d'éducation et le roman, la grande forme romanesque, disons, le roman social, le roman de mœurs, peut être une forme, en effet, qui accueille cette formation de la nation parce que il y a des personnages, il y a des trajectoires, il y a des espaces, et donc le roman est une forme particulièrement souple, si vous voulez, pour interroger aussi la fabrication nationale dans son rapport à l'identité locale, c'est-à-dire villageoise que tous les Européens avaient, hein, et puis à une identité qui est en construction nationale, mais même en France qui était une vieille nation. Il est évident que, je sais pas, le paysan breton ou le paysan bourguignon, il était quand même d'abord de son village, de sa petite patrie, et il se sent absolument pas européen. Ça n'existe pas, ça n'est pas dans son horizon.
Alors, il y a aussi l'école, hein, qui joue un grand rôle à travers des romans ou des histoires plus pédagogiques.
Vers la fin du 19e, c'est le moment où dans plusieurs États se met en place un système de scolarisation vraiment universel. Et donc, il faut des livres de lecture. Et c'est vrai que je parle de 3 romans, disons, pour enfants. Donc, Le Tour de France, raconté par 2 enfants pour les Français. Le livre italien, qui est très, très connu en Italie, qui s'appelle Cuore. Et Le merveilleux voyage de Nils Holgersson pour les petits suédois. Et donc, dans tous les cas, il s'agit d'un apprentissage de la nation. Un roman d'apprentissage à la fois, disons, de la nation et du personnage qui est mis en scène dans le livre. Par exemple, pour Nils Holgersson, c'est un petit garnement, hein, au début du livre. Et puis, il s'amende, il devient un bon petit garçon en même temps qu'il fait le tour de la Suède et qu'il comprend qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui.
Alors, en même temps, il y a une certaine culture urbaine, hein, qui se propage avec des grands centres urbains, des grandes capitales où il y a des cafés, des théâtres. Donc, c'est une culture qui se véhicule à travers ces modes de communication et de rencontre.
Alors, cette vie dans les villes, elle est caractérisée en effet par un certain nombre de pratiques nouvelles, par exemple la lecture du journal. Donc cette façon peu à peu de construction d'une opinion, finalement d'une opinion publique dans des pays qui sont pas encore des pays démocratiques, la flânerie urbaine, la ville comme spectacle aussi, alors la fréquentation des théâtres, les cafés en effet qui deviennent des espaces importants, qui sont des lieux de discussion ou des lieux de jeu ou des lieux de rencontre, enfin
des lieux politiques aussi.
Des lieux politiques aussi. Donc tout ça, on retrouve ça à peu près au même moment en effet à Londres, à Paris, à Madrid, dans les grandes capitales notamment. Donc vous voyez, quand vous me demandiez identité européenne, en fait, je dirais plutôt un style européen.
Une brève histoire culturelle de l'Europe d'Emmanuel Loyer, publiée chez Flammarion. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Steven Elsley. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. On se retrouve en tout cas dès demain sur les ondes. En attendant, un nouveau point sur l'actualité tout de suite sur RFI.